Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute!
Dans cet épisode, ce n'est pas une invitée qui nous ouvre son micro, mais quatre. Une équipe de conseillères pédagogiques et d'orthopédagogues s'est réunie pour nous parler d'intervention, pour répondre aux besoins de l'enfant et des pistes pour soutenir son développement global, dont l'utilisation du jeu en classe. Le rôle de soutien en petit groupe en classe peut faire partie de nos responsabilités comme orthopédagogues, bien sûr, étant donné que le développement du langage est un précurseur pour le langage écrit. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Nadine Fortin, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, Marie-Claude Blanchard, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire, Julie Charon et Claudia Noël, orthopédagogue. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors, on est très chanceuse de vous avoir toute une belle équipe de professionnels. On commencerait peut-être, Marie-Claude, pour mettre la table. Peux-tu nous parler du nouveau programme en vigueur depuis 2021 au Québec?
Oui, en fait, le programme cycle de l'éducation préscolaire a été déployé au début de l'année scolaire 2021-2022. C'est un programme développemental qui est échelonné en fait sur 2 ans pour les enfants de la maternelle 4 ans et de la maternelle 5 ans. Et c'est un programme dans lequel il n'y a pas d'échelle ou de progression des apprentissages. C'est un programme qui mise sur le développement global de l'enfant où chacun des 5 domaines de développement ont une importance égale et sont traités et travaillés en synergie. Dans le programme, on mentionne la place des interventions préventives, que ce soit des actions qui sont planifiées afin de soutenir l'enfant dans son développement, tout en tenant compte de sa maturité, de ses besoins et de son rythme d'apprentissage. On parle aussi de l'importance de la collaboration avec la famille, les services éducatifs, les services en petite enfance, les services complémentaires et les services sociaux. Et on parle beaucoup aussi de l'importance de répondre aux besoins de l'enfant en le reconnaissant comme étant unique. Dans le programme SIC, on offre aussi une place très importante pour le jeu. On a un temps qui est prescrit, c'est-à-dire 2 fois 45 minutes de jeu libre par jour, où est-ce que l'enfant va pouvoir choisir avec qui et avec quoi il pourra jouer.
Merci pour ces précisions. Mais ça nous permet d'avoir un regard d'ensemble. Comment, en tant qu'orthopédagogue, on peut tirer profit du contexte d'une classe de préscolaire pour intervenir?
Moi, je pense que le premier élément, c'est peut-être que je trouve que ça renverse totalement, dans le fond, la dynamique qu'on a en tant qu'orthopédagogue. Nous, on arrive dans le milieu, dans la classe, puis c'est le milieu de l'élève. C'est le milieu où est-ce que l'enseignant et les élèves vivent naturellement. Donc, c'est nous maintenant qui est un peu de la visite dans leur environnement, dans leur milieu. L'élève, il est expert de son environnement, il connaît les coins de sa classe, tout ça. Donc, ça l'amène à qu'on peut lui demander de nous expliquer où sont les éléments dans son milieu. On peut lui demander aussi ce qu'il a compris des activités qu'il a déjà fait. Donc, ça amène vraiment une dynamique différente en tant qu'orthopédagogue parce que notre lien est différent. Ce n'est pas nécessairement nous qui arrivons en imposant des activités ou en imposant des façons de faire. C'est plutôt nous qui arrivons en voulant connaître son environnement, son milieu, les activités qu'il fait. Donc, ça crée un lien vraiment positif avec les élèves. De plus, moi, ce que je trouve aussi super intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'intervenir avec l'ensemble des élèves de la classe du préscolaire. Donc, ça permet de toucher un aspect de prévention, vraiment avec tous les élèves, d'apprendre à les connaître, c'est vraiment très positif. Un autre élément aussi que je trouve vraiment super intéressant, c'est qu'on se met en tant qu'orthopédagogue dans un mode différent. On est dans un mode plus d'écoute, d'observation, parce qu'encore là, on arrive dans le milieu de l'enfant et de l'enseignant. Donc, ça nous permet de voir comment il se débrouille dans un milieu où est-ce que c'est connu pour lui. Est-ce qu'il comprend bien son environnement? Est-ce qu'il s'organise bien? Donc, ça permet des observations vraiment pertinentes sur le développement global de l'enfant. Donc, je trouve ça vraiment très positif, ça aussi. L'autre aspect que je trouve intéressant, qui nous permet de bien faire notre travail d'orthopédagogue. Le fait d'aller en classe, bien, ça nous permet aussi de mettre à sa disposition plein d'occasions d'apprendre, des occasions différentes avec différents matériels, sur différents sujets. T'sais, on va aller toucher la mathématique, la stimulation du langage, tout ça. Puis aussi de lui permettre aussi d'avoir des référents dans son milieu à lui. Donc, si par exemple, on travaille avec des outils ou certains éléments, par exemple des bandes de nombres ou tout ça, bien, il va les avoir dans son milieu. Donc, quand on va quitter la classe, il va avoir encore ces référents-là, puis il va être en mesure d'évoluer puis progresser, même si nous, en tant qu'orthopédagogue, on n'est pas nécessairement présents à tous les jours.
Bien, pour faire suite à ce que Claudia dit, moi, je trouve que c'est aussi une occasion de créer un travail collaboratif avec l'enseignante du préscolaire. Parce qu'on s'en vient dans sa classe, mais il faut retenir que l'enseignante, c'est elle qui est l'experte, c'est elle la spécialiste du préscolaire. Alors, moi, je me vois comme une collègue, et j'arrive avec mon bagage d'expertise à moi, mais l'enseignante est là, elle, pour planifier ce qu'on va faire dans les occasions où on va se voir. Donc, pour moi, c'est important aussi de partager ce qu'on fait ou ce qu'on observe assez régulièrement. Ça, c'est peut-être plus difficile à mettre en place, là, de trouver des occasions où on peut se parler des élèves. Puis étant donné, comme disait Claudia, qu'on observe tous les élèves, étant donné que c'est le développement global qui nous intéresse, bien, tous les élèves ont des forces et des défis. Alors, de faire découvrir aux enfants quelles sont leurs capacités, leurs défis, puis de les soutenir dans le développement de ces défis-là, justement, pour moi, c'est ce qui est important là, comme orthopédagogue. Puis c'est vraiment le côté spontané aussi quand on va en classe. On n'intervient pas en ayant une feuille devant nous à cocher, on intervient spontanément en observant, parce qu'on est habitué d'observer des enfants qui ont des difficultés ou des défis, on va dire. Donc, c'est intéressant de pouvoir arriver et d'observer des choses que l'enseignante n'a peut-être pas observées, puis de partager ces choses-là ensemble après. Alors, ça fait comme c'est très enrichissant des deux côtés. On va dire ça comme ça parce que moi, j'ai beaucoup à apprendre aussi de l'enseignante du préscolaire parce que je ne connais pas le préscolaire comme tel. Moi, j'interviens avec des élèves en difficulté habituellement, mais là, on intervient avec tous les élèves et on est là pour donner peut-être des stratégies en fonction de ce qu'ils vont faire en première année. Nous, on a cette histoire-là dans notre tête aussi la première année. On sait ce que ça amène comme défi pour les enfants. Alors, d'aller à la maternelle, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de travailler justement sur les défis que les enfants ont. Par exemple, le questionnement, par exemple, se faire confiance, faire des essais et erreurs, puis de verbaliser aussi les incompréhensions, parce que les élèves souvent n'osent pas dire s'ils ne comprennent pas, mais là, de les amener à verbaliser sans qu'il y ait de malaise. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience, surtout avec le nouveau programme qui nous donne vraiment beaucoup de latitude. On n'est pas seulement confiné à faire de la conscience phonologique. Là, on est vraiment là pour travailler à plusieurs niveaux. Puis moi, je trouve ça très excitant, très, très enrichissant.
Et merci, Julie. Je trouve que justement, vous avez mentionné toutes les deux des pistes très intéressantes, tirer profit de cette latitude pour mettre en place les différentes suggestions proposées. Bon, je trouve ça déjà très riche. Je vais enchaîner avec une deuxième question. On a parlé d'un projet pilote dans la préparation de cet épisode. Puis là, je voulais que vous en parliez un petit peu. Selon votre expertise et le projet pilote mené dans les classes de préscolaire dont Nadine va nous en parler, quelle est la place de l'orthopédagogue dans l'évolution de l'élève?
Tu as raison de le souligner, ça part d'un projet pilote, puis la difficulté à cibler, ça fait 4, 5, 6 ans, mais à la base, ça part d'une intention de faire autrement en orthopédagogie. Comment on pouvait jaser l'intervention en orthopédagogie, là, de passer d'une pratique où l'ortho va chercher des élèves dans la classe de préscolaire, les sort pour travailler des choses avant de les ramener dans le local d'ortho. Puis cette intention-là s'appuyait, oui, sur un désir d'une collègue CP de se dire « on peut-tu faire autrement? » Mais une insatisfaction que j'avais moi-même vécue comme orthopédagogue à la base, là, de me dire « mais qu'est-ce que ça donne quand je fais ça? » Puis déjà, là, les années suivantes, j'avais essayé un autre modèle. Fait que, tu sais, tout ça part de ça, de voir comment on peut faire autrement.
Et le nouveau programme est venu comme rajouter une couche sur ce projet-là, de nous forcer un peu plus à aller vers là avec la place du jeu. Puis bon, on le sait, faire un horaire, c'est toujours complexe. Puis malheureusement, on ne peut pas se cloner puis être dans toutes les classes en même temps à la première période du matin. Donc, comment je peux m'insérer dans des contextes qui ne sont peut-être pas des contextes où il y a formellement une activité qui se déroule. Donc, comment je peux profiter de la collation? Comment je peux profiter du le message du jour? Donc, tout, on dirait que tout s'est mis en place pour nous forcer à aller vers là. Fait que c'était un peu ça, là, l'idée de notre projet là, qu'on a vécu, oui, en la première année en petit, là, 2-3 équipes, mais plus ça va, plus ce projet-là fait des bébés. J'aime ça dire que ça fait des bébés. Donc, plus ça fait des bébés, puis là, ça fait des bébés ben, à cause du nouveau programme. Fait que ça part un peu de là, notre projet. Qu'est-ce que ça a amené, ce projet-là? Ben, je pense que ça a amené des interventions dans des contextes le plus naturel possible. Ça a amené des interventions qu'on n'a pas besoin de transférer. Mon élève, il apprend quelque chose dans la classe. Je lui montre, puis je profite d'un contexte qui n'est pas fabriqué. C'est spontané, c'est on the spot. Je lui montre quelque chose, puis je veux croire qu'il va le transférer plus facilement que si j'avais créé une activité, que j'avais vécu ça dans mon local, puis qu'après, il y avait franchi la porte de mon local, ce qui, on le sait, est terrible pour nos élèves. Donc, moi, je pense que ça a apporté ça. Puis c'est quoi la place de l'ortho dans l'évolution de l'élève au préscolaire? Moi, je vois beaucoup l'ortho comme, ben oui, une deuxième paire de yeux, on l'a dit, mais aussi une opportuniste. Quand je vais dans la classe, je saisis toutes les occasions. Puis quand on a des échanges avec les orthos, c'est ça qu'elles nous disent. « Ah, j'étais là à collation. Hey, on a fait des maths. On a fait des paires, on a fait ci, on a fait ça. Ah, j'étais là pendant l'histoire, on a fait telle chose. » Fait que moi, je pense que c'est ça la place de l'ortho, d'être une opportuniste, puis de prendre tous ces contextes-là pour voir comment je peux faire progresser tous les élèves et apprendre à les connaître pour la suite.
Ça donne une belle image, un mot à retenir en fait pour en profiter. Est-ce que, Claudia, tu voulais nous parler justement de la place de l'orthopédagogue pour compléter dans l'évolution de l'élève?
Bien sûr. Je pense que la place de l'orthopédagogue dans l'évolution de l'élève au préscolaire est vraiment importante. Puis encore là, je pense que le nouveau programme va comme encore là aider dans cette lignée-là. Parce que moi, j'avais des collègues des fois qui étaient surprises. Ah oui, l'orthopédagogie au préscolaire en classe rapidement dans l'année, parce que nous, on intervient dès le début de l'année. Là, je suis présente dans les classes du préscolaire. Puis oui, parce que le rôle de l'orthopédagogue, je le vois comme une facilitatrice. Je suis là, puis je suis consciente que ce n'est pas moi qui vais avoir le plus grand impact sur la progression de l'élève, parce que, évidemment, on n'est pas là à tous les jours auprès de ces enfants-là, mais en même temps, c'est la complémentarité avec les autres intervenants. Donc, l'orthopédagogue avec l'enseignant, on a deux regards différents sur l'élève. On se questionne différemment. Donc, je pense que le fait de se questionner ensemble, d'observer ensemble puis de partager nos observations, c'est vraiment ça la force de l'intervention au préscolaire. Puis le fait d'être en classe, bien, c'est sûr que ça maximise les échanges, les observations. On voit les mêmes choses à certains moments, donc c'est vraiment facilitant. Je pense que ça permet aussi une analyse encore plus précise et pertinente de l'élève parce que, comme je le disais auparavant, on le voit dans son milieu de vie, entre guillemets, on le voit dans son milieu de classe. Donc, ça nous permet vraiment de mieux comprendre parce que nos élèves en difficulté, là, tu sais, auparavant, on les sortait comme Nadine disait, on les sortait du local puis on pouvait les amener dans notre local d'orthopédagogue, mais c'est sûr qu'on les déracinait de leur milieu, de leurs repères, de leurs connaissances. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ces élèves-là, ils avaient l'air un peu déboussolés, un peu perdus. Donc là, de rester dans leur milieu d'apprentissage, bien, ça nous permet de voir est-ce qu'ils ont développé des repères au courant de l'année, est-ce qu'ils sont quand même conscients des activités qu'ils font, tout ça. Donc, ça nous permet vraiment une analyse encore plus approfondie des difficultés, mais en même temps, plutôt des besoins des élèves, là, parce qu'on veut juste répondre de mieux en mieux à leurs besoins, mettre des interventions en place pour les soutenir efficacement. Donc, c'est vraiment très positif, je trouve, d'être en classe puis d'avoir cette collaboration-là avec les enseignants. Puis en plus, ça nous permet aussi, on a dit qu'on avait une intervention qui était vraiment universelle, qui allait toucher l'ensemble des élèves. Donc, ça nous permet aussi de voir un peu la progression qu'ils ont tout au long de l'année. Peu importe leurs défis, peu importe leurs besoins, tout au long de l'année, on veut les soutenir, on veut qu'ils évoluent, puis ils vont se rendre où ils sont capables de se rendre. Donc, ça nous permet aussi, nous, en tant qu'orthopédagogues, de pouvoir observer cette dynamique-là d'un peu d'une réponse à l'intervention, mais on n'est pas dans une intervention systématique là, d'orthopédagogie, loin de là, mais on voit quand même l'évolution que l'enfant peut avoir quand on met des mesures en place, quand l'enseignant met des mesures, quand on fait des allers-retours aussi, puis on se dit, ben non, ça ne fonctionne pas, on réanalyse les besoins, on se réajuste. Donc, je pense qu'on devient vraiment juste plus efficace à soutenir l'enfant dans ses besoins réels, puis de respecter aussi ses besoins en tant qu'enfant du préscolaire.
Moi, j'aimerais ajouter que ça nous permet aussi de voir les enfants évoluer, bien sûr, mais quand ils passent au niveau de la première année, on a vu le progrès qu'ils ont fait quand ils arrivent en première année. Nous, on les connaît, alors que l'enseignante de première année, elle les reçoit pour la première fois. Et là, on peut faire des ajustements puis échanger avec l'enseignante quand elle pense que l'enfant est en grande difficulté, alors que nous, on l'a vu vraiment à son départ. Puis ce qui fait que moi, je suis rendue que j'aime bien dire aux enseignants du primaire que là, le préscolaire, il est collé au primaire là, maintenant. Il y a un pont là, qui se fait avec le primaire. Parce qu'avant, on parlait beaucoup hein, du préscolaire et du primaire. Et donc, la réussite scolaire, ça touchait les enfants quand ils commençaient la première année et jusqu'à la sixième année. Et moi, je trouve que là, le départ, c'est vraiment au presco. Puis nous, on est là justement pour essayer de faire en sorte que le passage à la première année se fasse le plus facilement possible. Puis, il y a un lien qu'on crée aussi avec l'enfant parce que nous, on va aller travailler avec lui après ça en première année. Alors, il va nous avoir vus, il a vu comment on travaillait avec lui, on lui amène, on lui apporte des stratégies, on fait de la pratique guidée avec lui. Alors, c'est comme quelque chose de très riche, je trouve, là, pour l'enfant. Alors, il arrive en première année, puis il est moins inquiet, j'ai l'impression, parce qu'il sait qu'on va continuer à l'aider, puis il nous voit là, à tous les jours, puis là, il nous connaît. Alors qu'avant, ben, on passait dans les corridors, puis si on n'allait pas au presco, ben, les enfants, ils ne savaient pas c'était qui, Mme Julie ou Mme Claudia, alors que maintenant, ben, ils nous saluent, hein, puis c'est vraiment, ils sont contents de nous voir arriver quand on arrive, même si on n'y va pas souvent, on aimerait ça être là plus souvent, mais c'est vraiment une belle expérience.
Je pense, Julie, j'ai juste le goût d'ajouter que les enfants, on est allés dans leur classe puis on a joué avec eux.
Oui.
On est arrivé puis on n'est pas arrivé en disant « On s'assoit, on m'écoute, c'est moi qui dirige. » On est arrivé, en début d'année, moi, j'arrive puis je m'installe, je vais au coin jeu symbolique, je vais mettre un chapeau puis je vais jouer avec eux. J'arrive une autre journée, « Bon, qu'est-ce que vous faites? Ah, est-ce que je peux jouer avec vous? » Donc, il y a vraiment une dynamique aussi très différente. Là. Ils nous voient vraiment comme un grand ami.
Oui.
Donc, je trouve que ça l'a vraiment influencé aussi. Oui, l'ensemble des élèves nous connaissent, puis on est comme des collègues de jeu qui arrivent. C'est de la visite. Hein? Ça l'influence aussi, le lien vraiment hyper positif. Puis, on se retrouve des fois l'année suivante qu'ils sont déçus lorsqu'on ne va pas nécessairement en classe parce que là, on ne joue plus autant qu'avant. Oui, oui. Ça. Donc, c'est vraiment...
Mais je trouve que c'est aussi une belle occasion de faire prendre conscience à l'enfant de ses forces. Parce que souvent, l'enfant connaît ses difficultés ou ses défis, mais il ne connaît pas ses forces. Alors, parfois, on joue avec les enfants, puis il y a un enfant qui va dire « Oh, moi, je ne suis pas bon, je ne réussis pas. » Puis là, je suis obligée de lui dire « Mais tu sais, c'est la première fois là, que tu joues. Ce n'est pas grave. » Puis la fois d'après, bien, l'enfant est comme meilleur. Mais là, il sait que ce n'est pas parce qu'il manque de compétences, mais c'est parce qu'il n'a jamais joué à ce jeu-là, c'est normal. Mais il voit un autre ami qui est meilleur que lui, mais là, je suis obligée de lui dire, ben, tu sais, elle a déjà joué avec ce jeu-là, elle l'a à la maison. Alors, c'est vraiment, moi, je trouve que ça, c'est important parce que souvent, nos enfants en difficulté n'ont pas beaucoup d'estime de soi. Alors, moi, je ne perds jamais l'occasion de leur redire qu'ils sont bons puis de leur faire voir, hé, regarde, t'as réussi, t'es donc bien bon. Puis là, ça aide aussi là, de commencer dès la maternelle à leur dire qu'ils sont bons, à leur montrer où est-ce qu'ils ont des meilleures compétences, puis où est-ce qu'ils ont des défis, mais c'est pas grave, on y travaille ces défis-là. Alors ça, je trouve que c'est chouette. Là. C'est vraiment, moi, ça me fait du bien.
Alors, Julie et Claudia, là, je vous écoute, puis je me permettrais peut-être juste d'ajouter, là, je pense que ce qui fait que ça fonctionne si bien, c'est que l'orthopédagogue ne se présente pas en expert dans la classe. Elle n'arrive pas avec un savoir, un bagage, des activités, un tout prêt. Elle accepte d'être vulnérable. Hein? Elle accepte de se dire, OK, je vais arriver. Oui, avec une intention dont j'ai discuté avec l'enseignante parce qu'on s'est vu avant, je sais un peu ce qu'on va faire. Ou, oh non, j'y vais pendant la période de jeu, donc je m'insérerai dans un des coins de la classe ou dans une des activités prévues. Mais je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Là. Puis que les élèves, tu sais, vont, comme Claudia l'a nommé, être déçus parce qu'ils ne me reverront pas l'année prochaine versus, oh la madame, ah oh, oui, ça, c'est celle que les enfants vont voir quand ça va moyen. Donc, je pense que c'est cette façon-là de se présenter dans la classe, d'aller là, vivre des activités avec eux, d'aller s'insérer dans leur quotidien qui va faire que ça fonctionne si bien. Ça fonctionne bien aussi parce qu'on observe des choses, on constate des besoins chez les élèves, on en discute avec l'enseignante, puis on voit comment, comme orthopédagogue, on peut répondre, comment peut-être on peut suggérer des choses à l'enseignante, comment ensemble on peut essayer des choses pour bien répondre. Je pense que c'est tout ça qui fait que on vit des succès, on voit des gains, on voit de la progression chez les élèves. Mais ce n'est pas le rôle auquel on est habitué comme orthopédagogue. Fait qu'il faut accepter de se mettre en danger.
Merci pour ces différentes pistes. Ça donne aussi un portrait, ça éclaire. Vous avez tellement décortiqué aussi ces rôles complémentaires, la collaboration, puis comment accepter de prendre cette place. Pour enchaîner, en fait, je voulais, on se questionnait, en fait, en se basant sur vos expériences, qu'avez-vous mis en place et qu'est-ce qui est recommandé comme pratique pour assurer la transition entre la maternelle et la première année? Vous en avez un petit peu parlé, comme quoi le rôle de l'orthopédagogue puis cette posture que vous avez décrite peut faciliter la chose, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça un petit peu?
Bien, je pense que le fait, dans le fond, de connaître l'ensemble des élèves, ça peut être un facteur de protection assez important, dans le sens que moi, quand j'arrive en début d'année, c'est sûr qu'on va aller observer dans les classes, on va avoir des discussions avec les enseignantes de première année pour voir comment le début d'année se déroule. Puis en même temps, bien, moi, j'ai tout le bagage de mes observations de l'an dernier pour remettre en contexte la glissade de l'été ou le fait que, oui, l'élève est peut-être insécure, qu'il y a un nouveau milieu d'apprentissage, tout ça. Donc, ma connaissance global de l'enfant, de ses besoins en général, de son évolution de l'an dernier, va me permettre vraiment de mieux soutenir l'enfant, que ce soit pour recommencer des interventions auprès de lui ou soutenir l'enseignante pour dire, pour lui nommer ou lui partager, dans le fond, mon avis, tu sais, sur son évolution ou sur ses besoins actuellement en début d'année. Donc, je pense que ça peut être super positif. C'est sûr qu'on va avoir tendance à faire un peu un tableau de prévision des besoins de l'année suivante parce qu'on va vouloir voir en début d'année est-ce que c'est des élèves qui ont besoin de soutien. Puis parfois, comme on les connaît bien, mais on sait qu'ils vont peut-être être un peu plus insécures, avoir besoin de soutien, mais leur besoin primaire, c'est peut-être pas au niveau académique purement, mais si c'est des élèves qui ont un peu d'insécurité, puis le fait que moi, je sois présente en début d'année, que je vois quelqu'un qui soit connu, bien, peut-être que juste ce coup de pouce-là en début d'année va faire une différence dans le cheminement. Donc, quand on connaît vraiment bien les élèves, qu'on connaît bien leurs besoins, bien, nos interventions sont différentes, puis parfois sont plus efficaces, puis sont peut-être plus courtes dans le temps, mais en même temps, on répond clairement aux besoins de l'élève. C'est ça. Puis comme je disais tantôt, bien, le fait d'avoir créé un lien positif dans le jeu, mais après, ça a une influence vraiment positive sur nos interventions l'année suivante. Un autre élément qui est vraiment positif dans la transition du préscolaire à la première année, c'est qu'on va avoir l'occasion de faire des jeux en classe au préscolaire, de présenter différentes activités que les élèves vont avoir vécues. Puis souvent, bien, ils vont avoir l'occasion de les revivre aussi en première année parce qu'on va partager ces jeux-là que les élèves aiment. Donc, ils vont pouvoir les refaire l'année suivante, par exemple. Et ça, moi, ils l'apprécient vraiment. Puis c'est comme un souvenir pour eux. Ça fait si longtemps le préscolaire, ils ont fini dans leur tête. Donc, ils sont vraiment, ah oui, je le connais, ce jeu-là. Puis ils se sentent tout en, justement, encore là, dans la position d'un élève expert qui vont présenter parfois à leur enseignante de première année. Ah oui, ce jeu-là, on a joué. On va vous expliquer comment, tout ça. Donc, je pense que ça favorise grandement, dans le fond, le développement des enfants, puis une transition encore plus fluide vers la première année, assurément, dans le fond. Puis, le dernier élément auquel je pense, c'est peut-être le fait aussi que, encore là, je suis une facilitatrice au niveau de la communication entre le préscolaire et la première année, parce que quand je vais mettre en place, par exemple, des activités où je vais faire des choses au préscolaire, bien, c'est sûr que quand c'est un succès que les élèves aiment, bien, oui, je vais le partager aux enseignantes de première année, puis on va partager nos projets qu'on a fait au presco. On va, veut pas, comme j'ai un pied au préscolaire, un pied en première année, bien, c'est sûr que ça facilite la communication avec tout le monde parce que j'ai d'autant plus d'occasions de discuter avec chacune d'entre elles. Donc, voilà.
Moi, j'ajouterais que face aux défis qui se présentent en première année pour les enfants, moi, c'est beaucoup le côté attitude que je veux travailler aussi, dans le sens où plusieurs enfants ne s'activent pas nécessairement dans une tâche. Alors, ils attendent toujours que l'adulte vienne les aider. Alors, ils ne prendront pas de risques. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec eux, leur faire prendre des risques, leur dire « oui, essaie-le, je vais t'aider, si ça va moins bien, je vais t'aider ». Alors, d'enlever cette inquiétude-là, l'enfant, parce que certains enfants, justement, pensent que c'est magique, là, l'apprentissage, puis qu'ils n'ont pas à s'investir nécessairement. Donc, pour moi, ça, c'est important de travailler là, sur l'attitude face aux apprentissages pour être, pour justement arriver en première année et avoir un petit peu moins de crainte par rapport aux apprentissages parce que c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se reprendre, mais la résistance à l'effort, on va dire ça comme ça, on le remarque dès le préscolaire, certains enfants n'ont pas le goût de faire l'effort. Alors, si on le voit là, bien, on peut déjà mettre en place un travail là, avec l'enseignante pour que ces enfants-là développent ce côté-là qui est un petit peu plus problématique, on va dire, mais c'est quand même un beau défi pour l'orthopédagogue, je trouve.
Julie, tu mentionnes quelque chose d'important, des fois on le voit aussi tout au long du primaire, cette résistance, d'où l'importance d'intervenir tôt puis de sécuriser ces petites craintes, la peur de
oui,
l'erreur.
Oui, tout à fait.
Mais merci. Donc, à la suite de ces pistes puis les choses que vous avez mises en place, je pense, Nadine, tu voulais aussi faire un petit ajout comme en dernière intervention concernant les défis qui persistent sur le terrain.
Oui, parce que ça a l'air beau quand on en parle. On a deux orthopédagogues convaincus et fiers, défendrices, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais qui défendent bien le rôle de l'ortho au préscolaire. Mais il y a quand même certains défis qui demeurent. D'avoir du temps pour échanger avec l'enseignante, planifier certaines activités, parce que là, on a beaucoup parlé du contexte où c'était très spontané, du jeu, mais il arrive parfois où on va vivre des activités à deux. Hein, quand moi, je dis souvent à deux, c'est mieux. Donc, on va choisir des contextes. Bien là, il faut avoir du temps pour se planifier. Puis, le temps en enseignement, c'est ça. Il en manque souvent. Il y a aussi l'idée de comment on va consigner les observations qu'on va faire. De quelle manière je vais pouvoir transmettre l'information à l'enseignante de manière simple, de manière efficace sur ce que j'ai vu. Je n'ai pas à prendre des observations sur tous les élèves avec lesquels je vais avoir eu des échanges, mais parfois, il y a des élèves pour qui je me dis « Oh, ça me semble que j'aurais le goût qu'on laisse une trace. » Bien, ça fait partie des défis. Autre défi, parfois, c'est de convaincre le personnel enseignant, puis je dirais peut-être parfois de convaincre certaines orthopédagogues de le vivre différemment. Parfois, on est habitué, on est dans nos pratiques, on est dans nos pantoufles, puis on dit « Pourquoi je ferais différent? Ça marche, c'est le fun. » Donc, des fois, c'est d'aller convaincre. Puis, ce qui reste, c'est juste accepter de se lancer. Là. Puis, je pense que toutes celles, parce que c'est principalement des filles qui ont fait partie de notre projet pilote qui s'est échelonné sur plusieurs années, mais toutes celles qui acceptent de se lancer en ressortent gagnantes. Là. Et à la fois pour elles, dans leur pratique d'orthopédagogue, mais aussi pour les élèves, puis pour l'enseignante qui l'accueille. Puis, je pense que tout ça, dans un contexte aussi où il y a un nouveau programme qui se met en place, puis la mise en place du programme, puis tu me corrigeras Marie-Claude, mais ça ne peut pas aller trop vite, plus vite qu'on veut non plus. T'sais, chaque enseignant s'approprie le programme cycle à la mesure qu'il peut s'approprier. Fait qu'on est quand même dans un contexte où il y a des défis qui demeurent, mais on a vraiment on a vécu des expériences positives qui, nous, on les fait rayonner. On en reparle, on s'est vu l'année passée pour en parler. Mais c'est pas tout rose. Je voulais dire que ça a l'air beau, là, mais il reste quand même quelques défis, mais il y a beaucoup plus de gains que d'écueils.
Est-ce que je peux ajouter une petite chose suite à ce que tu dis, Nadine? C'est que, dans le fond, on avait dans le passé souvent en tête les élèves qui arrivaient au préscolaire avec des difficultés langagières, par exemple, ou des difficultés particulières. Ces élèves-là, on les voyait tout de suite parce qu'on les nommait dans les portraits de classe. Mais là, le nouveau programme fait en sorte que là, on a un regard sur tous les élèves parce que même les élèves qui n'ont pas de problématiques spécifiques peuvent avoir des défis. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est encore mieux que lorsqu'on avait une petite liste d'élèves qu'il fallait observer davantage ou il ne fallait pas les laisser aller eux autres parce que, bon, il y avait un problème de motricité fine, problème de langage, mais après ça, les autres, on les laissait pas de côté, mais je veux dire, on accordait moins d'importance à ces élèves-là puisqu'ils arrivaient à l'école avec moins de défis. Donc là, je trouve que c'est vraiment un bel accord là, de pouvoir voir tous ces enfants-là ensemble puis de les voir interagir ensemble aussi parce que les plus forts vont quand même aider les élèves avec des défis puis vont leur montrer des choses spontanément, des stratégies, ils vont avoir fait quelque chose puis on va pouvoir reprendre le processus avec l'élève qui est à côté. « Ah, as-tu vu comment il a fait? C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses? » Alors, c'est tout ce côté-là là, d'échange avec l'élève puis de prise de conscience là, des choses qui sont facilitantes qui m'intéressent beaucoup là, au préscolaire.
Merci pour cet ajout. Puis, Lucile et moi, on voudrait vous remercier pour ce beau tour de table très enrichissant et très, très pertinent qui permet, moi je trouve que, bien sûr, je n'ai pas de spécialisation au préscolaire, j'ai passé très peu de temps comme orthopédagogue au préscolaire, alors ça a permis de démystifier plusieurs points, mais également de comprendre comment, j'ai retenu le mot latitude plutôt. Qui a été dit, mais justement, on voit une très grande latitude dans le programme et ce qui permet à l'orthopédagogue d'avoir un plus grand terrain de jeu. Je vous remercie pour votre participation. Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucile Denis et Christelle El Akhoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.